Chapitre 4. La présomption outrage, mais la sagesse soulage. La sagesse qui vient d'en haut est en premier pure de tout mal. De plus, elle aime la paix, elle est courtoise et douce. Elle agit sans duplicité ni feinte. Elle est sans façon et sans fard. Elle se montre compréhensive et conciliante. Elle est ouverte à la discussion et capable de céder, pleine de bonté et de compassion. Elle produit beaucoup de bonnes actions. Épître de Jacques, chapitre 3, verset 17. 1. La complémentarité entre visiter, soigner et guérir les malades. Nous mettons parfois en opposition ce que Dieu met en parallèle et en complément. Notre étude porte sur la prière pour les malades. La prière faite avec foi sauvera le malade. Jacques 5, verset 15. Mais Jésus a encore donné dans ce domaine précis deux autres mandats à son Église. A. Visiter les malades. Jésus a dit, « J'étais malade et vous m'avez visité. » Évangile de Matthieu, chapitre 25, verset 36. Ce sont les justes qui reçoivent cette parole. Il ne dit pas, « J'étais malade et vous êtes venu me guérir ou vous m'avez soigné. » Il considère que la visite aux malades est un mandat bien particulier est suffisamment important pour être autonome. Être aumônier dans un hôpital ou faire une simple visite à une personne souffrante est un appel reconnu et honoré par notre Seigneur. C'est un don de temps, parfois d'argent. C'est un don d'amour humble et courageux. B. Soigner les malades. Laissez-moi vous rappeler la parabole du bon samaritain. Évangile de Luc, chapitre 10, versets 30 à 37. Jésus va la donner comme interprétation du plus grand des commandements, aimer. Un homme descend de Jérusalem à Jéricho. Attaqué par des brigands, il est abandonné sur le chemin à demi-mort. Deux personnages religieux passent par là sans se soucier de lui, mais un samaritain en a compassion. Il bande le blessé, verse de l'huile et du vin sur les plaies, les médicaments de l'époque, le charge sur sa propre monture, l'ambulance de l'époque, et l'emmène à l'hôtellerie, l'hôpital de l'époque. Il manifeste une telle sollicitude qu'il reste à veiller près de lui toute la nuit, paye sa pension et ses soins, s'engage à couvrir les éventuels frais supplémentaires et, quelques jours plus tard, revient prendre de ses nouvelles. N'est-ce pas un exemple de solidarité entre bien portants et malade, digne de nos meilleures institutions? J'aimerais avoir le courage de la clarté face à ce récit et dire que je suis convaincu de l'utilité des ambulances, des médicaments, des hôpitaux, des médecins et des assurances, pour autant que ces dernières soient le reflet d'une solidarité collective. Le bien portant paye pour le malade. En tant que chrétien, il est fondamental de comprendre ces choses, car Jésus ajoute « Va ». Et toi, fais de même. Soigner les malades, du début à la fin, en y incluant toutes les implications pratiques, est un mandat que notre Seigneur a donné à son Église. Si nous avions encore le moindre doute, Jésus déclare en Marc 2, 17 et Luc 5, verset 31, que les malades ont besoin de médecins. Ce ne sont pas ceux qui se portent bien, mais ce sont les malades qui ont besoin de médecins. Aviez-vous déjà remarqué que Jésus disait cela? Ainsi, nous comprenons mieux que les hôpitaux chrétiens aient été fondés en pleine période de réveil où la puissance de Dieu se manifestait pourtant par d'étonnants miracles. Guérir, soigner et visiter les malades sont trois actions qui émanent du même cœur, celui de notre Père et Créateur. Celui qui prie pour les malades en regardant de haut l'aumônier et le médecin, l'aumônier qui se considère comme propriétaire de ces malades, tout comme le médecin qui méprise visite et prière, font tous les trois fausse route. Considérer l'autre comme au-dessus de soi, l'honorer et lui donner sa place, reconnaître que les trois fonctions sont nécessaires et complémentaires, c'est vivre et pratiquer la parole. 2. La présomption médicale. Le dictionnaire définit ainsi la présomption. Opinion trop avantageuse de soi-même. Suffisance. Prétention. D'après ce que nous venons de voir au point précédent, Nous pouvons comprendre que si nous avons le mandat de prier pour les malades, cela ne nous octroie pas le droit de supplanter l'infirmier ou le médecin. Plus l'onction et les fruits dans notre service grandiront, plus la tentation sera grande d'outrepasser cette frontière. C'est ainsi que de réels serviteurs de Dieu ont mis des malades en danger de mort en les exhortant à jeter leurs médicaments. Le diagnostic et la médication ne sont pas de notre ressort. Ce n'est donc pas parce que nous prions pour les malades, et même prions avec efficacité, que nous recevons tout à coup un diplôme d'infirmier ou de médecin. Court-circuiter l'autorité médicale est dangereux. Quand un malade est guéri, il est sage que le médecin traitant le confirme, à l'exemple de Jésus qui, selon les principes médicaux de la loi juive, Lévitique 13 et 14, envoya les lépreux se montrer au sacrificateur. Jésus était très sensible à son mandat. Quand on voulut le pousser dans une fonction qui n'était pas la sienne, il s'exclama « Qui m'a établi juge parmi vous ?» conformément à l'évangile de Luc, chapitre 12, verset 14. Et lorsqu'on voulut le faire roi, il se déroba à la foule, conformément à l'évangile de Jean, chapitre 6, verset 15. Il est évident qu'un médecin chrétien peut avoir les deux mandats, ou les trois, et se permettre de donner des conseils médicaux en complément à sa prière. Il en est de même pour nos infirmières dans leur voyage missionnaire. Elles sont souvent aussi bien conduites à donner quelques conseils curatifs aux mamans qui amènent leur bébé pour la prière qu'à prier avec les malades qu'elles suivent médicalement. En résumé, l'erreur est d'utiliser notre position d'autorité et la confiance que place en nous le malade pour empiéter sur un domaine qui n'est pas le nôtre. Prenons le cas d'une visite effectuée auprès d'une personne hospitalisée en chambre commune. Dans une telle situation, il est de première importance d'agir avec sagesse, tenant compte du cadre dans lequel s'effectue la visite. Imaginons deux scénarios opposés. Dans le premier, le chrétien prie si fort qu'on entend deux chambres plus loin. Il termine en saisissant le malade par la main et, arrachant intubation et autres cordons d'assistance médicale, le fait sauter hors du lit au nom du Seigneur. Il sera certainement renvoyé, manu militari, de l'établissement avec interdiction d'y revenir. Dans le second cas, à la fin de la visite, le chrétien propose la prière à la personne alitée. Prenant sa main dans la sienne, le plus naturellement du monde, et gardant les yeux ouverts, il parle doucement à Dieu en faveur du malade, puis s'en va discrètement. À supposer que le médecin soit dans la chambre, ou même que l'hôpital cultive une attitude sciemment antichrétienne, il sera difficile à qui que ce soit de lui faire un reproche. La puissance de Dieu ne sera aucunement limitée. Ainsi, en restant sous son mandat, ce chrétien conservera ses entrées à l'hôpital. Les guérisons et les convalescences bénies menées à bien par le Seigneur ne pourront être que confirmées par le corps médical et les patients. 3. La présomption spirituelle. Pour informer les gens de notre intention de prier pour les malades lors de nos campagnes d'évangélisation, nous indiquons simplement sur nos affiches et banderoles publicitaires « Prière pour les malades ». Durant les soirées, même lorsque plusieurs centaines de personnes demandent la prière, nous prions généralement nommément pour chacune d'elles. Mais nous n'annonçons pas « Amenez tous vos malades, ils seront guéris ». Ce genre de promesses se sont parfois terminées par des procès peu glorieux. Il est vrai que Jésus n'a pas seulement parlé d'imposer les mains aux malades, mais aussi de les guérir. Ça ne signifie pas que nous ayons le mandat divin de dire à chaque fois « Sois guéri au nom de Jésus ». Cette affirmation devrait venir d'une conviction profonde, d'une pensée prophétique ou d'une parole de connaissance, mais jamais d'un automatisme. Tout véritable disciple désire certainement voir la gloire de Dieu se manifester au point que tous les malades présents soient guéris. Jésus l'a vécu à de nombreuses reprises, ainsi que Pierre et Paul. Matthieu 8, verset 16, 12, verset 15, Luc 4, verset 40, Actes 5, 15 à 16, 19, 11 à 12, 28, verset 9, et sous-entendu, Matthieu 15, verset 30, 19, verset 2, etc. Et certainement d'autres disciples comme les 70 envoyés. Luc 10, verset 9. Souvenons-nous simplement que ce sont les fruits qui ont produit la renommée et non cette dernière qui a créé les fruits. L'action de Dieu se manifeste aussi au point que tous ceux qui touchaient la frange du vêtement de Jésus, Matthieu 14, verset 36, Actes 5, 15 à 16, 19, 11 à 12, ou par la suite, étaient couverts par l'ombre de Pierre, ou encore étaient en contact avec un mouchoir ayant touché Paul, étaient guéris. Ceux qui utilisent ces passages de l'Écriture pour envoyer à grande échelle des étoffes sur lesquelles ils ont prié ont souvent des résultats mitigés, car ils ne vivent pas une visitation au point que. 4. N'ayons pas peur d'être analysés. Jésus n'est pas opposé à ce qu'on observe ce qu'il fait. Des multitudes de scientifiques, dans les branches les plus variées, étudient chaque jour les merveilles de Dieu. Le Créateur de toutes choses est également le meilleur médecin de l'univers, et il ne craint pas que son travail soit examiné. L'aveugle a dit aux pharisiens, « Je sais une chose, j'étais aveugle, et maintenant je vois. » Évangile de Jean, chapitre 9, verset 25. Et comme l'homme était devant eux, il n'avait rien à redire. Si vous priez pour un malade et qu'il aille chercher confirmation de sa guérison auprès de son médecin de famille, ce n'est ni un manque de foi ni de l'incrédulité. Comme nous l'avons vu, cela peut être au contraire très sage. Il est normal que le médecin traitant confirme la guérison et modifie le traitement en conséquence. Les témoignages ainsi confirmés ont un impact généralement plus profond que les autres.